cet heureux mécontentement que de désirer. Et malheureuse satisfaction que de voir son désir satisfait.
Il me c'est très difficile de mesurer la confusion.
Je me fâche, refâche et contrefâche pour le plaisir de fâcherie me cause.
La confusion.
Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur le Salon de Musique. Aujourd'hui, il sera question de voix, voix parlée, voix chantée, puisque nous recevons le nom commun, un ensemble vocal de chanteurs. Il y a Emmanuel Lescoulier, Cathy Marcetti, Cathy Delolme, Thibaut Boislève, Jacques Boyer, Francis Coulot, et il y a un absent, mais on le nommera quand même, Bertrand Lombard. Donc bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être venus, vous êtes beaucoup, vous êtes 6 aujourd'hui, les micros vont entendre des voix parler, des voix chanter. Vous avez ramené pas mal de choses à écouter, vous avez prévu de chanter quelques chants aussi, avec du texte, chanté et avec une voix, la voix de Emmanuel Lescoulier. Et donc on va écouter pas mal d'enregistrements, de collectage du CNTRA, des chants polyphoniques, des chants mimologiques que vous allez nous expliquer par le chant directement. Donc je vous laisse, on va commencer par un petit, vous présenter le nom commun, ensemble de chants, ça existe depuis quand? Vous êtes marseillais?
Oui, donc le nom commun a été fondé il y a presque 2 ans. Et au départ, c'est né d'une envie de travailler autour de l'improvisation a cappella. Ça réunit des artistes qui ont à l'origine des pratiques diverses, qui issues du spectacle vivant. Il y a donc des comédiens, un danseur contemporain et chorégraphe, et des gens qui viennent plus du milieu de la musique. Et donc voilà, on a voulu se réunir autour de l'improvisation a cappella, c'était notre terreau commun. On avait également partagé le chant traditionnel en polyphonie, c'était une autre chose qu'on avait en commun. Et le premier spectacle qu'on a créé la saison dernière, l'objet de ce spectacle, c'était de relier chant de tradition orale, improvisation, et d'aller vers nos créations contemporaines, puisqu'on a commencé à écrire et à composer depuis lors, voilà.
Au niveau de ces compositions, justement, vous vous inspirez de... Qu'est-ce que vous vous inspirez du terreau local?
Pas non, spécifiquement
non.
Local,
tout,
ouais.
Tout le monde fait non avec la tête.
Non, pas particulièrement. On a des sources d'inspiration plus larges que simplement la région, ouais. Même si il y a des cousinages, y compris à Marseille, qui nous intéressent bien, en tout cas. Ouais.
Déjà la Corse, puisque...
Déjà.
C'est plus au niveau de la pratique et de la façon d'utiliser la voix qu'on est imprégné et baigné dans ce terreau traditionnel, plus que dans la forme et dans le sens également, quoi. C'est-à-dire que ça nous a servi de point de départ. On est dans des recherches similaires au niveau de la manière de rentrer dans le son commun, la manière d'organiser les voix entre elles, la façon de développer une écoute. Après, pour ce qui est de la poésie ou des thématiques du chant traditionnel habitué, on se situe dans une chose qui est plus contemporaine et qui donc dépasse une culture régionale ou une autre.
Alors, on va écouter pas mal de choses, je pense, qui vous inspirent. Parmi ces choses-là, quelles sont un peu les sources d'inspiration au niveau des artistes? Thibaut.
On va dire les artistes contemporains qui nous actuellement qui nous intéressent le plus. Il y a notamment Avilette. Parce qu'ils ont, enfin, ils ont réussi à développer une écriture contemporaine. Ils ont réussi aussi à tirer parti de leur forte tradition musicale chantée. Ils ont développé voilà une écriture très personnelle, des textes poétiques voilà sans trop de barrières. C'est, toutes ces choses là font que ils sont un peu pour nous pas à la pointe mais enfin quelque chose comme ça ouais.
On va en écouter je crois à la fin de l'émission.
Plus tard,
ouais. Ouais, voilà. Ouais. Pour l'instant on va écouter votre premier choix c'est un collectage du CNTRA, les Baronnies.
Oui, donc c'est le centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes qui a édité des atlas sonores où on trouve des collectages qui ont été réalisés dans les années 80-90, dans différentes régions de France. Ici, c'est la Drôme provençale. Et on entend un monsieur qui... Ben, de toute façon, je ne vais pas raconter. Il nous raconte très bien
on
ce
va
qu'il
écouter,
va faire.
On voilà. se retrouve après, où vous chanterez, je crois. C'est donc les Baronnies, Mimologisme.
Voilà, ce que j'ai appris dans ma jeunesse, c'est au contact donc, des animaux de la ferme. Et en gardant les brebis pour me perfectionner, à refaire donc les cris ou les chants des animaux. Les appels de la chèvre au chevreau, les aboiements du chien méchant, puis le bruit des voitures, parce qu'on n'avait ni cinéma, ni théâtre, ni opéra, absolument rien. La seule distraction, c'était le Tour de France et les voitures du rallye de Monte-Carlo. Alors le bruit des voitures, il sera d'époque. Hein. Je vais commencer par la poule qui a fait l'œuf. Voilà. Ensuite, la chèvre qui appelle son chevreau. Le chevreau dort. Donc la chèvre continue à appeler. Le chevreau se réveille. Il répond à sa mère. Et la chèvre est rassurée. Ensuite, le chien. Ben, le chien, il y en a de toutes sortes. Il y a le méchant. Il y a le chien gentil qui montre que quelqu'un nous rend visite. Il y a le chien de chasse avec son copain ou sa copine qui font un duo. Et puis, bon, mais je vais essayer de faire le bruit des voitures du rallye de Monte-Carlo. Le départ à Montauban, et puis ensuite, c'est dans le col de Perti. Boum, 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 boum. Suivante, celle-là c'était une Porsche 914, je crois que c'était Larousse, et derrière il y avait Terrier sur Alpine, Renault, berlinette bleue. Fatigué avec les voitures. Hein.
Voilà, on vient d'écouter les Baronnies, Mimologisme s'appelle. Donc, c'est vous pratiquez le mimologisme au nom commun.
Oui. Ce qui nous, en tout cas, c'est une pratique assez ancienne, très ancienne. Il se trouve que ce qui nous a mis sur la voie. Ce qui a aiguisé un petit peu notre sensibilité à ces choses-là, c'est la lecture du dictionnaire des onomatopées de Charles Nodier, un auteur donc, du 19e, ça date du début du 19e siècle. C'est le premier dictionnaire des onomatopées qui est paru. Et plus qu'un dictionnaire, c'est un véritable ouvrage de poésie où, sous la forme d'un dictionnaire, Charles Nodier évoque la possibilité de la création du langage humain par l'imitation des bruits du monde. Et donc, avec cette théorie, on est dans une perception de la création de la langue qui est complètement poétique et qui va jusqu'à l'imaginaire. Et donc, en partant du principe que l'homme imite le monde et l'environnement dans lequel il se trouve, et qu'avant le mot, il y a le bruit du monde qui existe. Mmh. Alors, ce qui nous a touché, c'est que par rapport au chant et à ce que la pratique du chant nous évoque aussi, c'est-à-dire le fait que le chant est là pour raconter aussi, raconter des choses depuis la nuit des temps, raconter le monde, le décrire. Et donc il y a une analogie comme ça à faire entre le mimologisme, l'onomatopée et la voix chantée projetée ensuite. Donc, voilà.
Alors oui, vous m'avez dit
qu'on allait vous expliquer ce qu'était exactement un mimologisme.
En chantant.
Donc il s'agit justement d'un morceau qu'on a composé à partir d'un article du dictionnaire des onomatopées de Charles Nodier.
Nous avons dit que la plupart des mots, la plupart des mots de l'homme primitif à voix étaient formés à l'imitation des bruits qui frappent son ouïe. C'est ce que nous appelons l'onomatopée, instruit à entendre et à parler.
Il a figuré ses propres bruits vocaux.
Il a figuré ses cris, ses interjections. C'est ce que nous appelons le mimologisme.
Merci. Le mimologisme par le nom commun sur le salon de musique sur Radio Grenouille. Puisqu'on parle d'onomatopée, de mimologisme, en parlant de musique, vous êtes musicien à la base, au nom commun ? Vous avez pas ça en commun, en tout cas, justement, forcément.
Pas tous.
Je pense qu'il n'y a pas un seul musicien de formation ici, en fait. Mm-hmm. Hein. Ouais. Moi, j'étais plasticien, vidéaste, plus précisément. Puis, bon, voilà, j'ai bifurqué.
Et comment vous écrivez les comment vous créez les morceaux, du coup?
Notre manière d'écrire et de composer, elle est assez empirique. Mmh. Et c'est en ça qu'on se revendique être un groupe de chanteurs de tradition orale, ce qui est différent d'un groupe de chanteurs traditionnels. Mais donc, en fait, l'improvisation est pour beaucoup, je disais tout à l'heure, pour beaucoup dans la création de ce groupe et aussi pour beaucoup dans la façon d'écrire et de composer. Elle est au centre de nos préoccupations, elle est l'outil de travail, elle est des fois le moyen de transmettre certaines choses ou de faire le lien entre justement ce qu'on a pu écouter de par exemple cet homme dans le disque précédent, mmh, qui est en train d'imiter les bruits du monde, et puis un autre pan de notre travail qui est des compositions plus élaborées avec des textes plus écrits, quoi.
Emmanuel donc est un dernier venu.
Oui,
c'est
voilà,
ça.
Donc, débarqué cette année.
Voilà, mmh, et il apporte une voix parlée.
Exactement.
Ici, avec du texte qui vient se coller au chant.
Exactement.
C'est bien ça.
On essaye de mettre en friction la voix parlée et la voix chantée.
Ça, c'est une nouvelle démarche au nom commun ou...
Elle existait déjà dans le spectacle de l'an dernier. Il y avait les prémices de cette chose-là. Mais on avait envie qu'une personne incarne plus précisément cette chose-là. Comme tu disais bien, mettre en friction, ça veut dire superposer, juxtaposer, travailler sur l'emmêlement des deux, travailler sur l'opposition des deux choses. Et donc, c'était vraiment... nécessaire et agréable de pouvoir travailler comme ça, en personnifiant ces deux choses, quoi, à travers
Vous êtes venu avec une chanson, justement, Le Chant du Sommet, je crois.
Au Sommet.
Au Sommet, oui. Pardon, je fais que des erreurs. Le Chant au Sommet, voilà.
Alors, il n'a pas vraiment de nom, ce chant. Il s'appelle Au Sommet parce que c'est le début du paragraphe. Ça fait partie de compositions qu'on a écrites à partir de textes théoriques. Et c'est encore un autre pan de notre travail, mais cette année, on a travaillé à la fabrication d'une conférence chantée. Il y a eu donc quelques épisodes sur Radio Grenouille qui sont passés entre février et avril, où on avait envie, un petit peu comme aujourd'hui dans cette émission, sauf qu'aujourd'hui c'est dans un temps très court, mais où on avait envie de partager toutes les choses qui nous ont, enfin voilà, qui nous animent et ce pourquoi on a envie de mettre en vibration nos cordes vocales et de mettre des mots dessus. Et donc dans un pan de ce travail, il y a la partie de toute la nourriture scientifique qui a pu nous influencer et l'envie de mettre des choses qui n'ont pas été faites pour ça, les mettre en musique, quoi. L'envie de mettre en musique des textes qui n'ont au départ pas du tout été pensés pour l'être, quoi.
Voilà. Le Chant au Sommet.
De l'évolution des éléments laryngés, nous trouvons
l'homme.
Ses cordes vocales sont longues, galbées, mais leurs bords vibratoires sont
précis
et
délicats.
Leurs
frottements
sont
comme l'archer
sur la corde du violon. La corde vocale
de l'homme
est la seule à présenter trois couches au niveau de son épithélium. Elle est la seule également à avoir un tel registre vocal
pouvant aller jusqu'à trois octaves.
L'ampliation thoracique,
l'élasticité
de l'appareil costal lui donne la
possibilité
d'un contrôle expiratoire et une grande
capacité
à emmagasiner
l'air
afin de pouvoir émettre
une voix puissante.
En fait, ce texte est tiré d'un ouvrage écrit par Jean Habitbol, qui est phoniatre. C'est une pratique que certains d'entre nous ont pu éprouver sous forme de rééducation, enfin, en tout cas d'aide technique au chant. On a choisi assez arbitrairement cet extrait procédé donc par juxtaposition et fait un petit découpage et voilà, du coup j'ai harmonisé ce petit découpage pour et qui donne ce résultat là en fait.
Quand vous interprétez par exemple ce chant sur scène, c'est accompagné d'une mise en scène je sais pas.
On est en cercle.
On est en cercle. D'accord. Ouais.
On a opté pour cette forme-là parce que, c'était pas. Mon micro est un petit peu. Voilà. C'était pas un désir de nier une possible mise en scène parce que, toujours possibilité d'imaginer plein de choses autour du chant. On a eu ce désir cette année pour la nouvelle création d'aller jusqu'au bout de cette configuration circulaire qui est déjà très concrètement la meilleure façon de faire sonner une polyphonie, parce que les voix se mélangent très bien. Et puis, dans la notion de cercle, il y a aussi... On avait l'impression comme ça qu'on posait quelque chose d'une façon très simple avec les gens, c'est-à-dire s'asseoir en cercle autour de quelque chose, même si c'est un espace vide. C'est une chose qui se fait pareil depuis très longtemps, notamment quand on veut chanter ou raconter des histoires. Alors voilà, il y a ces deux dimensions-là. Après... Au sein des créations qu'on a faites depuis 2 ans, il y a toujours évidemment la question du corps, parce que le chant, c'est le corps. Enfin, c'est un geste musculaire tout à fait semblable à d'autres. Alors le corps ne peut pas s'absenter longtemps de cette chose-là. Quand on chante, il y a une mobilité, même si elle n'est pas spectaculaire, il y a une mobilité permanente en fait. Le chant, c'est du mouvement. Alors il y a des questions qui se posent autour de ça. On a expérimenté des choses. On n'a pas trouvé de réponse satisfaisante. Alors, on continue de chercher. Mmh. C'est, euh, comment dire, c'est quand même l'idée aussi de convier les gens qui viennent nous écouter à quelque chose qui est vraiment centré autour du son et du mélange des voix. Alors, il faut trouver les choses justes qui peuvent accompagner cette chose-là. Il ne s'agit pas de plaquer comme ça de la mise en scène sur du son. Ça serait contradiction pour nous, je pense.
Et par exemple, puisque vous êtes intervenu, vous faisiez partie des interprètes de la création sonore qu'a mené Nicolas Frise, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Maintenant. Vous étiez donc un ensemble vocal. Vous le faisiez au nom du nom commun. Donc là, vous étiez interprète. Donc comment vous saisissez de ça? Est-ce que, puisque là, il vous met en scène, justement.
Oui, il met... Enfin, disons que ce qui était très agréable, c'est d'être au service de la création maintenant, et donc au service de ce compositeur, et d'avoir à la fois une certaine marge de manœuvre, puisqu'il nous a livré des partitions au mois de janvier, février, nous disant qu'il y aurait peut-être des choses qui changeraient, qu'il y aurait peut-être des parties un petit peu improvisées. Et on s'en est emparé à notre manière, c'est-à-dire que on n'est pas des chanteurs lyriques de formation, par exemple, et c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude dans des créations de musique contemporaine d'entendre des voix très placées, avec des techniques très très abouties, etc. Et là, je crois que, bon, il s'était en connaissance de cause, il nous avait rencontrés avant, donc il savait qu'on apporterait une matière vocale qui serait différente, et c'était bien agréable de pouvoir le faire. Et après, au niveau de sa manière d'écrire et de composer, ce qui nous a intéressé, c'était évidemment la relation qu'on pouvait faire égoïstement avec notre travail, modestement aussi, mais en tout cas, le fait que cette relation de tout ce qui frappe l'oreille peut faire son, peut faire sens et peut être un élément musical, le silence, la valeur musicale d'un silence, d'un bruit très concret, d'une respiration ou de notes de musique écrites sur une partition. Et donc ce travail nous a très certainement nourri, comme c'est récent.
On le digère encore,
mais c'est vrai que c'était pas si loin de ça, de nos préoccupations du moment, par rapport justement à ce qu'évoquait Manu tout à l'heure, la juxtaposition de la voix parlée à la voix chantée, au son voyélique tenu, aux bruits vocaux. Donc on était...
On va continuer, on a un long programme d'écoute. Alors, vous avez emmené un disque de Georges Apergis.
Oui. Récitation. Oui, par Martine Viard. Donc, toujours pareil par rapport à cette influence. On n'est pas du tout des spécialistes. Moi, j'ai personnellement découvert... Cette musique il y a très très peu de temps, mais ça m'a frappée, et par rapport aux choses que Francis écrit au sein du nom commun, aux textes que Francis a pu écrire et aux questionnements qu'on s'est posés avec la présence d'Emmanuel pour la façon de dire ces textes, ce morceau peut faire écho à certaines de nos recherches.
Un laisse, un le soir... Un loiris, un liris soir de juin, un soiris, un lirisoil, d'un soir liris pâlissant, d'un liris pâlissant croissait, d'une iride, irides pâlis, irides pâis, irisa inde, irisa pâlissante, irisé juissant attendri, irisé juissant, juina lissant, juiniribé, juiniriber. Jouissait, juin bercé par surcroît, jouissant croissait, juin tout bercé, juin le croît par, le croît saussait au bord, le croc flossait, le flot bordait, le flosant driss, les iris, driss au bord, driss santo, driss salonde, driss aux deux bords, salon d'attente, Attendriris, palissant, attendrissant. Attendrissant 2, attendrissant 1, soir, attendrissoir. Ouar 2, juin d'air. Henri d'Espalis, palissant parlait. Sans, parlin, soir, soir de juin, bercé. Juin bercé parlait, par les flosat. Flos attendris, dris le cire, cire, le cire ispal, rispalissant, sans croisset, de l'onde, onde, onde laisse, juin, loiris, onde, rissoir, da. Un soir de juin bercé par les flots attendris, les iris palissant croissaient au bord de l'onde.
Donc, oui, nous voulions vous parler un petit peu aussi de ce qui va suivre et puis faire écho à ce qu'on vient un petit peu d'entendre. C'était simplement pour dire que, en fait, avec Cathy, Francis et Bertrand, au départ, nous nous sommes connus il y a quelques années parce que nous avons, ce qui nous a rassemblés, en fait, c'est un travail autour des textes de Gerasim Luka que nous avons expérimenté pendant quelques temps. Au sein d'un autre collectif qui s'appelle Le Larynx, qui est plus porté sur le théâtre, la voix parlée, etc. Et donc, ce sont le genre d'écriture qu'on a pas mal expérimenté, dont on continue d'être pas mal influencé toujours. Et Francis, donc, au sein du Nom commun, est un petit peu une personne qui, dans l'écriture, nous amène beaucoup de choses et peut-être il peut en parler un petit peu aussi.
Bah, c'est important d'écouter ce truc d'Apergis, par exemple. Enfin, ça nous a paru important de le mettre parce qu'effectivement, au même titre que les chants mimologiques, enfin, les imitations du monsieur qu'on a écouté au début, c'est une grosse influence. Malgré le fait que ce soit une poésie, celle d'Apergis ou celle de Luka, des poésies très élaborées, c'est aussi des poésies qui sont nées dans cette espèce de tentative de reproduction des bruits du monde. Il y a une poésie comme ça qui est très basique, en fait, très organique, très viscérale, et en même temps très concrète. Alors, cet aller-retour entre le concret et l'abstraction, c'est une chose qui, effectivement, nous préoccupe au sein du travail de composition. Ça passe beaucoup par les mots, par leur choix et par leur assemblage. C'est un travail assez passionnant d'écrire pour de la musique. Moi, enfin, j'écris plutôt d'habitude pour la voix parlée. Depuis quelques années avec Cathy et Thibault, on s'est lancé dans ce travail de composition ensemble. Donc c'est très agréable de chercher comme ça les adéquations entre ce qui va être le véhicule du sens, a priori, le texte, et ce qui va être un autre véhicule de sens, c'est la musicalité qu'on va plaquer dessus. Alors ces deux véhicules-là sont parfois en opposition, notamment le fait d'écrire en français pour de la polyphonie. On a découvert en travaillant les textes qu'on avait écrits ensemble que c'était une difficulté de faire sonner ces sonorités françaises qui sont a priori parfois réticentes à l'accord polyphonique.
Pas adaptées ?
Je ne sais pas si c'est un manque d'adaptation, en tout cas. Par exemple, les sonorités « en »,« on » et « un », qui sont assez uniques, hein, la langue française est assez unique dans ses sonorités. C'est pas que c'est pas adapté, parce qu'on a trouvé le moyen de le faire sonner, Dieu merci, mais au début c'était vraiment une question, on se dit mais comment ça se fait? Alors c'est un placement de voix, après dans l'écriture c'est des questions, ces questions concrètes, techniques, on les retrouve dans l'écriture, alors ça veut pas dire qu'on va pas mettre de mots en un, parce que c'est dur à faire sonner, mais ça devient comme ça une espèce d'enchaînement et de circulation entre ce qu'on découvre en répétition, en improvisation et l'écriture, qui est assez passionnant, qui fait vraiment changer qui oriente vraiment l'écriture. C'est une véritable influence. Alors, on imagine que Gerasim Luka et Apergis se sont aussi posé ce type de questions.
Même s'ils revendiquaient le fait de ne pas faire du tout de musique.
Tout à fait.
Et que je sais que Luka n'a pas voulu que ses textes soient mis en musique, qu'ils ne soient pas compartimenté, dit à plusieurs voix, etc. Il y a vraiment la nécessité de rentrer dans la langue vraiment spécifique. Et ce n'est pas de la poésie sonore non plus. D'ailleurs. Ça peut paraître comme de la poésie sonore, mais c'est une poésie de sens aussi, de sens caché, en fait. C'est ça qui nous intéresse.
Ce qu'on peut juste rajouter, c'est que Gerasim Luka était roumain et qu'en fait, il écrivait en français mais parce qu'il était étranger dans cette langue au départ. Mmh. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'avec ce recul-là, il a traité cette langue d'une manière tout à fait étonnante, quoi.
Autodétermination. La manie et la manière de maman de s'asseoir chez soi sans moi. S'asseoir chez soi, chérie. Chez soi et toute seule, chérie. Le soir à la manière d'un cheval. S'asseoir à la manière d'un cheval et d'un loup, d'un châle loup. Oh, chérie, oh, ma chaloupe de soi. Oh, oui, s'asseoir, non. S'asseoir le soir et toute seule chez soi. Oh, non, non. Manière de s'asseoir sans moi chez soi, sans moi, sans chez... Oh chérie, c'est une manière, chérie, manière de s'asseoir chez soi sans chaise. S'asseoir sans chaise, c'est ça, c'est une manière de s'asseoir sans chaise.
Salon de musique avec le nom commun sur Radio Grenouille. On vient d'écouter Gerasim Louka. C'était
l'autodétermination.
Voilà. Gerasim Louka est roumain.
Son parcours, il est intéressant parce qu'il a quitté la Roumanie quand il avait 25 ans. Il est venu s'installer à Paris. Et à partir du moment où il s'est installé à Paris, il a exclusivement écrit en français. Au début de son séjour à Paris, il a même traduit les textes qu'il avait écrits en roumain en français. C'était une véritable démarche d'être... comme un étranger, dans la langue dans laquelle il écrivait. Alors, il a évidemment découvert, comme tous les gens qui se mettent à parler une autre langue que leur langue maternelle, il a découvert plein de choses dans cette langue que nous, peut-être, on n'entend plus parce qu'on a une familiarité. La familiarité, des fois, ça éloigne beaucoup. Et voilà, donc il a vécu une belle vie. Il est mort à 85 ans, ou je ne sais plus. Il s'est jeté du pont Mirabeau dans la Seine en laissant un petit mot pour dire qu'il s'en allait parce que il n'y avait plus de place pour les poètes dans ce monde. Voilà. Ça a été son petit testament. Et c'est tout à fait passionnant à travailler, ces textes. Enfin, c'est très, très intéressant.
Emmanuel, l'inspiration, le texte que vous collez sur les chants, que vous, tout à l'heure, vous avez dit fixer, non
Mettre en friction.
Mettre en friction, oui. Voilà. Ces exercices, justement, de diction, de parole, sont... plus que des exercices, ces créations autour de la parole, ça vous mène quelque part?
Ça me mène quelque part. En tout cas, ça me fait poser beaucoup de questions, mm-hmm. Par exemple, sur le rôle de la mémoire, de la mémorisation, parce que ça fait travailler le cerveau d'une façon différente que, par exemple, un texte de théâtre un peu plus... typique, on va dire, sur lequel on a parfois plus de repères que certains. Enfin, ça dépend des textes. Hein. Au sommet, par exemple, qu'on a fait tout à l'heure, ça c'est un texte que j'ai même pas appris à force de le faire. C'est rentré un peu dans la tête parce qu'il y a quelque chose de logique, on pourrait dire. Alors que là, sur le genre de texte de Lucas ou d'autres textes qui sont même présents dans le spectacle, comme un certain texte qu'a écrit Francis, qui est un texte qui se déploie comme ça, où il y a beaucoup de répétitions aussi de mots, mais de phrases qui se transforment dans le sens aussi. Ça sollicite, le cerveau d'une drôle de façon. Et du coup, dans le jeu aussi, je pense, il faut être assez concentré sur ce qu'on fait et on ne peut pas se permettre de partir trop comme ça dans une interprétation, je dirais, sur laquelle on essayerait des choses. Il faut être vraiment dans le matériau concret des mots, quoi. Ça, c'est intéressant.
En fait, ce que nous a permis il y a quelques années cette pratique des textes et cette, cette étude presque des textes de Lucas, c'est moi, donc c'est une permission aujourd'hui, cette espèce de façon de faire confiance aux sonorités du mot. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au dictionnaire des onomatopées, à Charles Naudier. Le mot contient un élément de sens et d'évocation possible dans son son. Et donc, en fait, on travaille là-dessus, quoi. C'est vrai que dans les créations qu'on fait, il y a exclusivement des textes du nom commun, quasi, ou alors c'est des textes théoriques, parce que ça, par contre, on n'aurait pas pu en écrire. Mais donc, voilà, l'influence, elle se situe là aussi, quoi.
On continue dans la programmation avec l'ensemble Organum.
Oui, alors... Ouais. l'ensemble Organum, dirigé par Marcel Pérez, qui est ethnomusicologue, chanteur, qui a travaillé sur des musiques de tradition orale, profane et sacrée. Et ça, c'est un autre versant de l'influence du texte. Et là, il s'agit plutôt de l'influence de la psalmodie. Alors là, encore une fois, on n'est pas du tout spécialiste, mais grâce à cette personne, grâce à Marcel Pérez, on a pu se rendre compte comment était déterminée depuis très très longtemps aussi, dans des pratiques très anciennes, la manière de rythmer un texte, la manière de scander un texte. Qu'est-ce que c'était la prosodie, la scansion, la rythmique, et chose qui existe bien sûr dans la poésie. Et en tout cas là, on va écouter un extrait de l'antiphonaire de Saint-Louis, des Invalides. C'est un manuscrit qui date de 1682, et on a choisi ce passage parce qu'il est assez fulgurant et qu'on trouve qu'il est très pop.
Alors nous avons glissé très facilement de l'ensemble Organum aux Beach Boys, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, c'est un morceau des Beach Boys de Brian Wilson qui s'appelle Our Prayer. Donc effectivement, on est encore dans le domaine du simili religieux, mais bon, c'est plus un choix pour montrer qu'on a aussi de l'humour, quoi, voilà. Que le nom commun, c'est pas que des choses sérieuses, scientifiques, etc. Il y a aussi ça, mais bon, il y a aussi quand même de l'humour qui est latent et de la fantaisie et de la pop, voilà. Donc c'est bon. Voilà, donc c'est pourquoi effectivement on assume aussi ce choix, voilà. Et puis effectivement pour montrer que ben voilà, il y a une modernité dans des compositions qui remontent au 12e ou 15e, 16e siècle, qu'on voilà, tout ça se traverse, se mélange et s'influence, voilà.
Dans le flot de paroles, de voix qu'on a aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous parler de l'écoute radiophonique, par exemple. Quelle écoute radiophonique vous avez? Ça m'intéresserait de savoir un peu, pour vous, au nom commun, dans votre quotidien, où est-ce que vous allez chercher, je ne sais pas, est-ce que vous écoutez les infos ou est-ce que vous êtes intéressé par une certaine forme de radio?
Moi, j'écoute beaucoup la radio. Essentiellement, j'aime bien les radios où on parle, plutôt. Mais j'écoute Radio Grenouille aussi, d'ailleurs.
C'était pas du tout pour ça. Hein.
Même si je la capte pas très bien chez moi, je sais pas pourquoi. Mais j'ai une bonne connexion Internet, alors de temps en temps, je la mets aussi. Donc justement, par Internet aussi, on peut choper des choses assez étonnantes, des choses qu'on n'imaginerait même pas, parfois. Mais sinon, sur la radio en tant que telle, le petit poste de radio, j'écoute pas mal France Inter, France Culture aussi, il y a des choses assez intéressantes, et Radio Grenouille, ce sont les trois radios.
Merci
essentiellement, personnellement j'écoute. Mais j'écoute la radio quand je suis chez moi, quasiment tout le temps, quoi. Du matin jusqu'au soir.
Et pour vous, c'est... Enfin, justement dans cette écoute de la voix, ou même musicale, hein, est-ce que ça a un lien pour vous encore?
Ben, en fait, pour moi, par exemple, quand je sais que ce qui m'intéresse dans le fait d'écouter une radio, c'est vraiment, j'en reviens à ce qu'on a écouté au tout début de l'émission, c'est le paysage,
c'est le paysage
qui se dessine derrière, quoi, quel qu'il soit. Donc j'aime bien écouter des émissions, j'aime bien quand le rythme est assez posé et qu'en fait je... Plus ou moins, voilà, quand on écoute la radio, on est chez soi en train de faire d'autres choses, peut-être avant de se poser, peut-être pour écouter la suite. J'aime bien me laisser surprendre par cette chose-là, m'arrêter dans ce que je suis en train de faire parce que je vais me mettre au diapason de ce qui se passe quelque part ailleurs, voilà, sur un plateau de radio, quoi. Et je pense à ça parce que j'ai écouté ça il y a deux jours. Je crois que c'était lundi soir. Il y avait une émission sur un scénariste hollywoodien sur France Culture avec des extraits de films à la radio. C'était un scénariste des années 40, je crois. Oui. Ah. Voilà, ce genre d'émission me plonge complètement dans un domaine en plus. Peu importe que la question m'intéresse au départ ou pas, mais c'est vrai que je suis sensible à la manière dont l'émission va être montée, les extraits, les insertions qui sont faites. La façon dont les gens prennent la parole.
Vous avez fait de la radio vous-même aussi, hein?
Bah oui, on s'est.
Sur Radio
c'était
Grenouille.
La première fois. D'accord. Mais c'est que, enfin, c'est vrai.
Quelles
que
questions vous êtes posées justement pour ces petits modules que vous avez fait pour Radio Grenouille?
Déjà effectivement le format, quoi, de travailler sur un module court, quoi. Donc ça c'est déjà quand même une contrainte, enfin intéressante justement, riche, quoi. Comment dans un temps relativement court de 2-3 minutes, on peut donner une matière sonore qui soit perceptible par les gens. Puis effectivement, le problème aussi, c'est ça, c'est comment effectivement quelqu'un qui est en train d'écouter la radio va d'un coup se trouver confronté à cette chose-là, cette espèce d'objet sonore non identifié, parce que c'est effectivement un petit peu différent. Donc comment, en l'espace de 2-3 minutes, il va pouvoir appréhender cette chose, comment il va pouvoir rentrer dans cette chose, quoi. Et ça, c'est quand même pas très évident. C'est vrai, quand on a une plage d'une heure, et puis qu'à la rigueur, l'auditeur fait le choix d'écouter tel ou tel type d'émission, c'est une chose. Mais quand on se retrouve comme ça, à croiser un objet radiophonique, bref, c'est vrai que ça, c'est quand même une sacrée question, quoi.
C'était aussi pour nous l'occasion de nous rendre compte que la radio, c'est quand même un véhicule assez privilégié pour la voix. À la radio, on entend beaucoup de musique amplifiée, mais la voix parlée, on va dire la forme la plus simple de la voix, s'accorde vraiment avec cet outil-là, en tout cas.
On continue, on parlait de voix, on va continuer sur du chant, c'est ça ?
C'est quoi la prochaine ?
Alors, on va tenter une improvisation.
Ah oui, là, c'est ça.
Comme ça. On donc, la radio.
Ouais, on parlait de. Enfin, c'est une forme d'improvisation qu'on a développée, qu'on a essayé de développer parce que c'est une forme d'improvisation qui nous a servi à composer des morceaux, composer des musiques. Donc, il y a quelques règles du jeu, mais voilà, à part ça, sinon, on se lance. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, hey, oh.
Cathy Delolme, Thibaut Boislève, Jacques Boyer, Francis Coulot du Nom Commun, en improvisation. C'est pas facile comme ça. C'est un exercice que vous pratiquez souvent, en spectacle.
Oui.
En spectacle et puis beaucoup en répétition, en tant qu'exercice, justement.
En tant qu'exercice.
Voilà, en tant qu'exercice d'écoute. Voilà, c'est vraiment du travail, quoi.
Alors Cathy, tout à l'heure tu disais que vous aviez certaines règles, justement. C'est quoi les règles dans cette improvisation ?
C'est très simple, les règles qu'on se fixe, elles sont toujours d'ordre technique ou structurel, parce qu'elles sont pas là pour influencer la couleur ou l'humeur. C'est une organisation des voix dans le temps, plus ou moins. Donc là, la règle... On était en arc de cercle, ça commence à un bout de l'arc de cercle. C'est un rapport toujours de soliste et d'accompagnant. Et c'est deux notions qu'on travaille à définir et qu'on a travaillé à définir et qu'on travaille toujours à définir parce que ça peut revêtir plein de formes. Être soliste, c'est pas forcément être plus dans le volume ou dans l'articulation. Être accompagnant, ça veut pas dire suivre, ça veut dire proposer dans une certaine discrétion, mais en même temps dans une influence commune et complètement égale, en fait, de l'un sur l'autre. Et là, le jeu de cette improvisation à quatre, c'est que le solo passe de personne en personne. Et qu'on essaye à chaque fois de passer le plus souplement possible de cette posture de meneur, entre guillemets, à cette posture d'accompagnant. Mais encore, tout ça, c'est des termes avec des frontières très, très relatives. Et voilà, c'est pour ça que, comme Thibaut disait, c'est une pratique qu'on fait à titre d'exercice aussi, plutôt que de se dire, dans le spectacle, on va faire... cette impro et de la travailler dans sa couleur ou son humeur, on va toujours dire on va faire l'impro quatuor, toi t'es 1, toi t'es 2, toi t'es 3, toi t'es 4. Voilà, ça se limite à ça les façons de préparer les impros spectacles, mais pour nous c'est intéressant, c'est des moments assez qui font voilà, qui sont assez comment dire, impressionnants même de l'intérieur et qui à la fois sont très libérateurs aussi dans un répertoire quoi, lors d'un concert. Ouais.
Quand ça décolle une impro, enfin il y a, je parle de ça parce que il y a plusieurs improvisations qui sont devenues des morceaux composés dans notre répertoire. Donc il y a l'outil exercice, entraînement, parce que c'est vraiment ça, c'est s'entraîner à chanter les uns les autres. Et puis il y a l'outil de composition, c'est-à-dire qu'une impro, on les enregistre, on les note et ensuite on peut s'amuser à en faire des partitions précises quoi. Voilà.
D'ailleurs, on pourrait en fait vous faire écouter un morceau qu'on a composé sur un texte que Francis avait préalablement écrit, mais qui a pris la forme qu'il a prise parce que justement on travaillait ce type d'impro en quatuor.
Infiniment, si je continue, les mots ne seront plus. J'ai poussé sur pied sans racine, j'ai fait semblant le point de sable refermé. Les coups portés sont des poussières. Va
pour s'agripper, il faut griffer, il faut mordre.
Commun sur le salon de musique à Radio Grenouille. Comment s'intitule ce morceau ?
Infiniment.
Infiniment. Sur un texte donc de Francis Coulot. Donc on va enchaîner sur le chant du voisin.
Non, ce n'est pas le chant du voisin.
On recommence donc. Je vous laisse présenter le prochain morceau que nous allons écouter.
Comme disait Francis tout à l'heure, il parlait de cette difficulté de faire sonner la langue française de par ses aspérités et ses sonorités récurrentes, bien rentrées dans le fond de la gorge et de la bouche. On a deux choses à faire écouter parce qu'elles nous ont paru être des bons exemples d'habileté à faire sonner cette langue. Tout d'abord, Brigitte Fontaine et Areski, un duo « Nous avons tant parlé », justement.
La, 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 la. Nous avons tant parlé, toi avec moi, comment se rappeler, qui a dit quoi. Nous en avons tant fait, tu m'as volé, je ne sais ce que c'est. Je t'ai pillé. La 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 la. Ne me regarde pas avec mes yeux. Est-ce vraiment cela la vie? Qui a coulé dans tes artères, je le retrouverai mêlé de terre. La 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 la. Nos flammes sont mêlées dans un bruit tendre, et de l'autre côté, ce sont nos cendres. Mais pourquoi séparer ceci de ça? Pourquoi vouloir gagner? Il ne faut pas. La 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 la.
Brigitte Fontaine et Areski, c'est ça, son ami. On va passer de l'autre côté, rester en France, mais de l'autre côté de la Méditerranée, ou au milieu plutôt. On va en Corse. Donc là, vous avez pas mal de choses à nous faire écouter. Enfin, deux choses précisément. Les polyphonies traditionnelles corses que vous nous avez ramenées.
Oui. Alors, on voulait vous faire écouter ça parce que, comme le disait Thibaut tout à l'heure, on est assez admiratif du travail d'un groupe qui s'appelle Affilette, qui est un groupe de polyphonie corse, issu de la tradition, ayant eux-mêmes pratiqué, ayant eux-mêmes été... on leur a transmis cette chose-là. Et on fait le lien aussi avec tout ce qu'on a écouté tout à l'heure, ce qu'on a pu écouter tout à l'heure sur le chant sacré du 17e. C'est-à-dire que c'est pour faire un petit peu le lien entre la tradition populaire et la musique écrite. Il faut savoir que l'improvisation était une pratique très, très répandue. La nuit des temps, on peut même pas. La polyphonie existe depuis toujours. La monodie n'a pas préexisté à la polyphonie. C'est une pratique très très courante. C'est un art de vivre même. Avant d'avoir une partition à lire, le chant peut venir comme ça dans l'instant. Cette notion-là, elle est présente autant dans la musique sacrée que dans la musique profane. Et quelqu'un comme Marcel Pérez et son ensemble qu'on écoutait tout à l'heure a su faire le lien entre les deux en invitant des chanteurs corses de tradition orale d'aujourd'hui à venir revisiter des répertoires datant du 8e, du 9e ou du 17e siècle pour justement interpréter tout ce qui ne se voit pas dans la partition, tout ce qui n'est pas écrit. Parce que ce sont des gens qui ont une faculté par leur pratique quotidienne à improviser sur des codes. Par exemple, là, on va écouter pour commencer une padielle qui est la forme la plus connue de polyphonie traditionnelle et profane. C'est vraiment un chant de comptoir, la padielle. Il y a trois voix qui sont en jeu, une voix au milieu qui dit le texte et qui donne le chant et qui donne le texte, une voix qui ornemente au-dessus, une voix qui ornemente en dessous. Et comme tout à l'heure, nous, dans notre impro quatuor, la padielle, elle a des règles de structure, comme ça, de moment d'entrée ou de sortie des voix, et quelques règles harmoniques, mais à part ça, c'est tout. Le chanteur a une grande liberté d'interprétation. Et donc, c'est pour ça que la padielle est encore une forme de musique traditionnelle qui continue de nous intéresser et qu'on continue à pratiquer même dans nos spectacles aujourd'hui. Et ben voilà, on va vous faire écouter une padielle de la région de Taglio Isolaccio qui a été enregistrée dans les années 70 par Félix Quilici, qui était un des premiers ethnomusicologues collecteurs à enregistrer ces musiques.
La padielle.
Quando l'uomo
padielle, une polyphonie traditionnelle corse.
Voilà, une padielle en tout cas, une parce que c'est le terme générique pour désigner cette forme-là. C'est trois phrases de deux vers, chaque vers ayant huit pieds. Donc c'est une forme fixe et ça laisse... Enfin, c'est une pratique collective du coup, parce que quiconque veut participer à la padielle sait où est-ce qu'il va y avoir l'accent et sait comment rentrer selon qu'ils se mettent en basse, en seconde ou en tierce, c'est-à-dire la voix du dessus. Alors, Thibaut, donc ça nous intéresse pour ça aussi. Parce que
Thibaut faisait la traduction un peu. Ça raconte quoi en général une padielle?
Celle-ci, il me semble reconnaître le texte, c'est « Quand la montagne descendra sur la place, quand l'eau de la fontaine cessera de couler, alors je cesserai de t'aimer ». C'est toujours intéressant ces traductions dans le sens où on entend bien le rapport avec les éléments et l'environnement qui est vraiment
cher au peuple corse
et qui a une place importante dans toutes les traditions populaires chantées du monde entier, je pense.
Affiletta. Alors ça, c'est, on en parlait au début de l'émission, c'est un groupe que vous aimez beaucoup. Et...
Oui, alors comme je disais tout à l'heure, qui s'est un peu, comment dire, en sortant de la pratique de leur tradition littérale, je dirais, ont aussi créé une forme d'écriture qui est vraiment, enfin, qui est la leur et qui nous semble vraiment intéressante et notamment dans le rapport de la langue et de la musicalité. C'est quelque chose qui est, il me semble, parfaitement intégrés et dans un rapport intelligent dans leur écriture, quoi.
Une démarche que vous avez mise en application, vous aussi ?
Bah, on y travaille, en tout cas.
C'est une inspiration. C'est, voilà. Les façons de travailler des gens, c'est parfois aussi important que ce qu'ils produisent. Alors, c'est intéressant de savoir comment les gens qu'on aime écouter travaillent. Parfois, il y a des inspirations.
On écoute à Filetta. Filetta sur Radio Grenouille avec le nom commun dans le salon de musique pour écouter différentes choses. On s'est écouté pas mal de choses aujourd'hui. On a été en Corse, on a écouté Beach Boys, l'ensemble Organum, de la poésie sonore, enfin de la poésie textuelle, du son en mouvement, on va dire. Donc le travail continue à... dans le nom commun. Est-ce que vous avez des perspectives des territoires sur lesquels vous avez envie de travailler maintenant plus ?
Une chose, ce qui est sûr, c'est que depuis 2 ans, à peine que le groupe existe, il y a déjà un parcours qui a commencé à se tracer. Et une des choses dont on a le plus envie à présent, c'est de continuer à écrire et à composer sur mesure. C'est-à-dire qu'au départ, dans ce parcours, il y avait justement la musique traditionnelle qui était présente en tant que telle. On a interprété des chants traditionnels dans le répertoire du spectacle de l'an dernier. Cette année, comme je le disais tout à l'heure, il en restait un. C'était la padielle, pour les raisons que j'ai données aussi par rapport à cette perméabilité, cette part d'improvisation, etc. Et là, en fait, on est plutôt sur des projets qui vont continuer un petit peu dans le sens du travail mené cette année autour de la spécificité de la voix chantée comme véhicule de la parole, des bruits du monde, etc. Et en tout cas dans une forme encore plus personnelle, puisque voilà, travailler à essentiellement étoffer ce répertoire. Donc là, on est parti sur des projets de résidence pour mener à bien ce travail de recherche et d'écriture. Donc il y aura des rendez-vous publics à partir de l'automne prochain et la saison suivante. Voilà, en attendant, en tout cas, on s'attelle à un travail d'écriture.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous, le nom commun. Merci à Emmanuel Lescoulier, Cathy Marcetti, Cathy Delolme, Thibaut Boualève, Jacques Boyer, Francis Coulot. On fait un salut à Bertrand Lombard, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Peut-être pour une prochaine fois. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Ne vous faites pas mal à la voix. Continuez comme ça. Et c'était le Salon de musique sur Radio Grenouille avec le nom commun. Merci à vous et à bientôt.
Je me fâche, repâche et contrepâche pour le plaisir de fâcherie me cause.
La confusion.
À la technique, bien sûr, c'était Sébastien.